maintenant la parole à son Excellence Monsieur Elias Raua Milano, ministre des Affaires étrangères de la République bolivarienne du Venezuela.
Señora Presidenta, queremos...
Madame la Présidente, avant tout, nous voudrions adresser au Président de l'Assemblée générale H nos félicitations au nom du peuple et du Président de la République bolivarienne de Venezuela, Nicolas Maduro Moros, à l'occasion, disais-je, de sa récente élection à la présidence de cet organe. Comme vous le savez, Madame la Présidente, le Président Maduro n'est pas présent pour cette Assemblée générale. C'est dû à toute une série d'obstacles, de conditions, d'absence de garanties pour lui et pour certains des membres de sa délégation de la part du gouvernement des États-Unis. Il s'agit d'une violation flagrante des obligations prévu par l'accord relatif au siège de cette organisation. Malgré cela, nous sommes ici pour faire entendre la voix du peuple du libérateur Simon Bolivar. Nous sommes ici pour dire des vérités et pour poser quelques questions de manière ferme mais avec respect, comme nous l'a appris notre commandant Hugo Chavez. Je voudrais également saluer l'hommage qui a été fait à la suite du décès du commandant Hugo Chavez. Madame la Présidente, nous serions vraiment heureux d'être ici si nous étions à l'endroit où sont réalisés les nobles idéaux de la Charte des Nations Unies. Dans cette charte, on dit qu'il convient de préserver les générations à venir du fléau de la guerre. Mais en réalité, ici, on a décidé ou permis différentes interventions militaires qui ont plongé des pays ou des régions du monde dans de longues périodes de guerre et de déstabilisation. Notre Conseil de sécurité est devenu l'otage des faucons de la guerre qui, lorsqu'ils le peuvent, justifient ici leurs attaques et lorsqu'ils ne peuvent pas les justifier, un haussement d'épaule et ils font ce qu'ils veulent. Comme on s'en est encore rendu compte avec l'annonce d'éventuels bombardements de la République arabe syrienne. La charte dit également que l'objectif de cette organisation, c'est préserver la paix et la sécurité internationale. Et nous nous demandons la chose suivante. Comment certains membres du Conseil de sécurité des Nations Unies pensent pouvoir atteindre un tel objectif en armant et en protégeant des groupes terroristes tels que Jubhat al-Nusra et Al-Qaïda qui représentent des forces obscurantistes. Beaucoup de ces nombres impliqués dans des faits particulièrement atroces comme la destruction des tours jumelles, ici même dans cette ville, nient l'existence même de tous ceux qui ne pensent pas comme eux, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou juifs. Et ils sont particulièrement haineux envers les femmes. Pourquoi fait-on la promotion de ces groupes? Pourquoi certains membres du groupe du Conseil de sécurité protègent ces groupes terroristes que l'on camoufle parfois sous la description d'opposition politique? Comment peut-on leur permettre d'intervenir ici même? Que penseraient les représentants des gouvernements de pays où il y a des conflits internes si les groupes violents qui existaient dans leur pays se voyaient octroyer un droit de parole ici même? Le préambule de la charte contient également une autre intention, un autre objectif très noble, promouvoir le progrès social et élever le niveau de vie dans une liberté plus large. Mais en réalité, la pauvreté, la faim et l'injustice augmentent toujours et encore, et le niveau de vie et les libertés ne font que diminuer. Et ça, c'est dû à l'imposition d'un modèle exclusif néo-fasciste. C'est le modèle néolibéral. Alors que les pays qui, comme le Venezuela, ont choisi un autre chemin, le chemin de l'approfondissement de la démocratie sur la base d'un modèle socialiste, d'organisation et d'inclusion populaire. Cela nous a permis de réaliser les objectifs en matière de développement, objectifs fixés par cette organisation. Et pourquoi, alors que nous faisons cela, nous sommes constamment critiqués? On l'a vu encore avec l'opposition antidémocratique dans notre pays qui est aidée par des sociétés médiatiques de la région et du monde. L'article 2, paragraphe 4, Madame la Présidente, de la Charte des Nations Unies, dit très clairement que les membres de cette organisation s'abstiendront de recourir à la menace ou à l'utilisation de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État. Cependant, le président des États-Unis, avec la circonstance aggravante qu'il est prix Nobel de la paix, a menacé de bombarder tel ou tel pays si celui-ci ne se pliait pas à ses exigences unilatérales. Des exigences qui peuvent aller jusqu'au départ d'un gouvernement qui ne correspond pas aux desiderata des États-Unis. Il y a peut-être une explication. Malgré le fait que dans notre charte, on parle de l'égalité des nations petites et grandes, le président des États-Unis a déclaré ici même, il y a 2 jours à peine, que eux étaient exceptionnels. Cela veut dire qu'ils ne sont pas égaux par rapport aux 192 autres pays qui sont représentés ici. Il y a une incohérence qui existe aujourd'hui entre les nobles idéaux de la charte et ce qui est fait par cette organisation, par action ou par omission. Pourquoi, à l'Assemblée générale, personne n'ose proposer des sanctions face aux violations flagrantes de la Charte des Nations Unies pour un gouvernement qui maintient un centre de détention illégal sur la base militaire de Guantanamo, sur le territoire occupé de la République de Cuba, où l'on pratique la torture, des traitements cruels et dégradants? Pourquoi ne parle-t-on pas de sanctions pour le président qui a avoué le développement d'activités d'espionnage illégales, notamment à l'encontre de chefs d'État et de gouvernement ici représentés, comme cela a été dénoncé courageusement par la présidente du Brésil, Dilma Rousseff? Pourquoi on ne considère pas comme crime contre l'humanité l'utilisation de drones responsables de dizaines de milliers de victimes innocentes, y compris des enfants et des personnes âgés dans le nord de l'Afrique, au Moyen-Orient, mais également dans des régions d'Asie? Pourquoi n'applique-t-on pas des sanctions à l'encontre du gouvernement qui, depuis plus de 50 ans, maintient un blocus économique illégal et criminel contre le digne peuple cubain en violation des décisions prises à une majorité écrasante par cette Assemblée générale? Pourquoi ne pas appliquer les résolutions approuvées par cet organe et qui permettraient la création d'un État palestinien indépendant? Ce serait une issue pacifique, juste et durable au conflit israélo-palestinien. Pourquoi le Royaume-Uni n'accepte pas d'entamer des négociations avec la République argentine pour résoudre de manière pacifique le litige sur les îles Malouines? C'est peut-être parce que les élites des États-Unis et de leurs alliés sont exceptionnelles. Ce sont des questions que nous vous soumettons pour votre réflexion. Elles concernent l'avenir de notre humanité. Nous les soumettons au nom du peuple de Simon Bolivar, du peuple vénézuélien, épris de paix, d'égalité et de liberté. Le Venezuela est venu ici pour dénoncer une prise d'otage. Cette organisation est tenue en otage. La paix du monde et la dignité humaine sont des otages ici à New York. Le preneur d'otages a souvent des visages différents, il change de nom et parfois même de pays, mais c'est toujours le même en fait, c'est l'impérialisme. Cela fait 8 ans, le commandant Hugo Chavez, infatigable défenseur de la véritable paix, pas celle imposée par les bombes, un défenseur inébranlable de la démocratie participative et un champion de l'unité entre les peuples, a réclamé ici même une transformation profonde et sincère du système des Nations Unies. Il y a 7 ans que notre commandant Hugo Chavez a déclaré « Ici, ça sent le soufre ». Et aujourd'hui, nous le regrettons, ceux qui se considèrent exceptionnels continuent de sentir le soufre. Ces mots, aujourd'hui, sont toujours aussi valables. Les révélations courageuses d'un jeune homme ont rendu un grand service à l'humanité. C'est devenu une personne poursuivie, elle ne pourrait pas se balader librement dans les rues de Manhattan. Edward Snowden, nous lui souhaitons de pouvoir se promener librement parmi une génération future d'Américains qui auraient récupéré leurs droits civils. Ce jeune homme nous a montré comment la vie privée de chaque être humain a été bafouée par l'appareil d'espionnage le plus complexe et le plus sophistiqué qui ait été pu créer. Grâce à ces révélations, en 2013, nous nous réveillons pour nous rendre compte que le 1984 de George Orwell est une réalité. Et que font les Nations Unies ? Qui définit des limites face à ces violations ? Encore des questions qui ne trouvent pas réponse au sein de cette Assemblée générale ni au sein du Conseil de sécurité de cette organisation qui est sur le point de fêter son 68e anniversaire. Nous proposons que le secrétaire général demande la création d'un organisme au sein des Nations Unies afin de garantir le droit à la vie privée et aux communications sans interception, et ce, en faveur de l'ensemble des habitants de cette planète. Ici, on a entendu beaucoup de discours en faveur de la paix. Mais souvent, on a ignoré ces discours. Il faut apprendre l'importance de la clameur des peuples en faveur de la paix. Nous devons faire de la dignité humaine notre phare, notre point de référence. Il y a 50 ans, le président John Kennedy a prononcé un discours ici même. C'était le dernier discours prononcé devant les Nations Unies avant d'être assassiné. Et il serait bien que son successeur actuel et que bon nombre des personnes présentes ici relisent quelques passages de ce discours. Parce que malgré les différences que nous pouvons avoir avec ce personnage historique, pour garantir la paix, il y a certains points de référence importants. Je cite son discours. Il a dit « Parce que la valeur du travail de cette organisation ne dépend pas de l'existence d'urgence et la conquête de la paix ne peut pas être réalisée qu'au travers de réussites spectaculaires. La paix est un processus quotidien, hebdomadaire, mensuel d'avis qui change progressivement de barrières et d'obstacles anciens qui lentement s'érodent et qui permettent de construire de nouvelles structures. Et même si la recherche de la paix n'est pas spectaculaire, cette quête doit se poursuivre. » Fin de citation. Si seulement on pouvait méditer ce discours de Kennedy et que les dirigeants des États-Unis se rendent compte que s'ils veulent véritablement être exceptionnels, ils doivent trouver des solutions exceptionnelles pour parvenir à la paix durable dans le monde. En Amérique latine, nous démontrons au travers de décisions exceptionnelles qu'il est possible de construire un monde de paix. L'union dans la diversité, exprimée au travers de nos organisations régionales, l'Alliance bolivarienne pour l'Amérique latine, la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, l'UNASUR, le Mercosur, Petrocaribe, sont des outils de démocratie dans nos sociétés qui permettent de promouvoir un développement économique avec une inclusion sociale et des garanties pour la stabilité politique de nos démocraties. Ça nous a permis de régler différents conflits internes ou entre pays. Cela a permis la mise en place de mécanismes de résolution pacifique des litiges. Sans intervention militaire, sans drones, sans blocus économique, on peut construire et préserver la démocratie, une vraie démocratie, et progresser sur la voie de la lutte contre la faim, la pauvreté et l'inégalité. La nation vénézuélienne est fière de faire partie d'une région libre de tout type d'armes de destruction massive. Et elle s'engage à promouvoir l'élimination totale des armes nucléaires, chimiques, bactériologiques. C'est une garantie de préservation de la vie sur notre planète. Le commandant Chavez, au cours de ses différentes interventions devant cette assemblée, a demandé que soient améliorées les méthodes de travail sur les différents problèmes et sur la résolution des conflits avec davantage de transparence. C'est un besoin, ça l'est encore plus aujourd'hui. Le siège de l'ONU doit-il se trouver ici dans ce pays, alors que le gouvernement de ce pays ne respecte pas l'organisation et encore moins la souveraineté de chacun de ses membres? Les Nations Unies devraient être dans un pays où l'on garantit le respect de tous. Un pays où il n'y a pas de pression, où il y a une véritable volonté de faire progresser les choses, une vraie volonté de développement social et d'éradication de la misère, où ce qui est urgence n'est pas justifier une guerre, mais éviter une guerre. Emmenons les Nations Unies vers le Sud. où l'entité exclusion solidarité nous a enseigné que très souvent nous sommes tous égaux. Comme l'a proposé le président Evo Morales, il faudrait organiser les sessions de cette organisation ailleurs. En Amérique latine et dans les Caraïbes, nous disons qu'un autre monde est possible, un monde où toutes et tous pourront vivre en paix, dans la dignité, dans la justice, pourront vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Je vous remercie, madame.
Je remercie le ministre des Affaires étrangères de la République bolivarienne du Venezuela de la déclaration qu'il vient de prononcer.